On plonge ce soir dans une atmosphère très particulière. Imaginez, Paris, 3 novembre 1969.
Une date clé.
Oui. D'un côté de la ville, il y a une salle Pleyel pleine à craquer qui vient d'applaudir une icône, Miles Davis.
Une star absolue.
Et de l'autre, dans une petite cave du quartier latin, un pianiste que seuls les vrais initiés connaissent, Keith Jarrett. Deux planètes, vraiment.
Et pourtant, pour reconstituer ce qui s'est passé, on s'appuie sur le récit d'un témoin direct, le contrebassiste Jacques Vidal. Il était là.
Ah, c'est une source précieuse.
C'est formidable. Il nous fait entrer dans la pièce et ce qu'il décrit, c'est la collision de ces deux mondes.
Alors justement, ce monde de Keith Jarrett, à ce moment précis, c'est quoi ? On est où exactement ?
On est au Caméléon, rue Saint-André-des-Arts. Faut s'imaginer un truc minuscule.
Vraiment petit.
40 places, à tout casser, avec un simple piano droit, même pas un instrument de grande qualité. Hein. Et là, Jarrett joue en trio.
Avec qui ?
Avec Aldo Romano à la batterie et Jean-François Jenny Clark à la contrebasse. Et leur musique, elle est décrite comme incroyablement libre, aventureuse.
C'est-à-dire ?
Ils passent de compositions à eux à des reprises de chansons pop. C'est déjà la patte Jarrett, cette capacité à tout mélanger.
D'accord. Et notre témoin, Jacques Vidal, il a donc choisi d'aller voir Jarrett plutôt que Miles.
C'est ça, un choix audacieux à l'époque.
Et en plein milieu d'un solo de piano, la porte du club s'ouvre. Et là ?
C'est une apparition. C'est une scène de film. Miles Davis en personne.
Pas possible.
Si, si. Accompagné de sa femme Betty, de son bassiste Dave Holland et de son batteur Jack DeJohnette. Ils rentrent et ils écoutent.
Mais attendez, comment Miles Davis, qui sort de son propre triomphe, se retrouve-t-il dans ce trou à rats, presque ? Ce n'est pas un hasard, j'imagine.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. L'homme clé dans cette histoire, c'est très probablement Jack DeJohnette.
Le batteur de Miles.
Exactement. DeJohnette et Jarrett se connaissent très très bien. Ils ont joué ensemble pendant plus de 3 ans dans le groupe de Charles Lloyd. Ils sont restés très proches. C'est sûrement lui qui a dit à Miles, « Miles, il faut que tu viennes, il y a un pianiste que tu dois absolument entendre. »
C'est fascinant ces connexions en coulisses.
C'est ce qui fait l'histoire du jazz.
Et donc, Miles reste jusqu'au bout du set. Il n'est pas juste passé en coup de vent.
Non seulement il reste, mais c'est là que tout bascule. À la fin du morceau, Miles se lève et il va directement vers Jarrett, près du piano.
Et ils se parlent ?
Non. C'est le cœur du problème. Miles est en pleine révolution électrique. Il ne veut pas Jarrett au piano acoustique.
Ah !
Il le veut sur des claviers électriques. Un Fender Rhodes, notamment.
Le job de rêve, mais avec un instrument qu'il déteste, en gros.
C'est exactement ça. Pour Jarrett, le piano acoustique, c'est presque une partie de son corps. Passer à l'électrique, c'est une sorte de trahison.
Quel dilemme !
Énorme. Et le fait qu'il hésite, ça montre à quel point l'aura de Miles était puissante. Bon, l'affaire ne se conclut pas ce soir-là, mais le contact est établi. Et 6 mois plus tard, il dira oui.
Et la soirée n'est même pas finie. Il y a une dernière anecdote encore plus folle.
Oui, alors là, c'est le bouquet final. Le concert reprend après la discussion. Mais les musiciens de Jarrett sont un peu fatigués. Ils laissent leur place.
Et qui les remplace ?
Dave Holland et Jack DeJohnette, les musiciens de Miles. Ils montent sur scène et ils jouent avec Keith Jarrett.
Pardon, il faut qu'on s'arrête une seconde là-dessus. Miles Davis, la plus grande star du jazz, est assis dans la salle.
Oui.
Et il regarde ses propres musiciens jouer avec ce pianiste qu'il vient de découvrir.
C'est une image surréaliste. C'est Miles n'est plus seulement musicien, il est metteur en scène. Il est en train de faire une audition en direct.
C'est une sorte de test, en fait.
Exactement. Il teste la chimie. Cette soirée, ce n'est pas une rencontre. C'est le début d'une collaboration qui va changer le son du jazz. C'est la fusion entre l'univers intime de Jarrett et la galaxie électrique de Miles.
D'ailleurs, une critique de l'époque décrivait justement le style de Jarrett comme un foisonnement de références allant de Bill Evans à Bob Dylan. On parlait de sa capacité de synthèse au début.
Tout à fait.
Alors, en repensant à cette soirée, on peut se poser la question, comment cette aptitude à fusionner des mondes si opposés, mise à l'épreuve par l'offre de Miles, a-t-elle finalement défini toute sa carrière, y compris, et c'est ça le paradoxe, son retour si radical au piano acoustique, seul des années plus tard.